Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il y a un an, le 16 janvier 2016, l'accord sur le programme nucléaire iranien entrait en vigueur 6 mois après avoir été signé. Le texte visait à garantir la nature strictement pacifique de ce programme en échange d'une levée des sanctions internationales. Il concluait de manière spectaculaire une longue période de négociations entre l'Iran d'une part et le groupe des 5 plus 1 d'autre part, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les mêmes se réunissaient avant-hier à Vienne, en Autriche, pour faire un point sur la mise en œuvre de cet accord. Bilan positif du point de vue de l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de superviser son application. Tout semble donc aller pour le mieux. Mais tout ne va pas si bien. En décembre, les États-Unis ont prolongé une partie des sanctions contre l'Iran. La passation de pouvoir à la Maison-Blanche pourrait encore envenimer les relations entre Washington et Téhéran, Donald Trump ayant promis de déchirer l'accord de juillet 2015 une fois arrivé au pouvoir. Quant aux promesses de boom économique qui devaient suivre la levée des sanctions, elles sont loin d'avoir toutes été tenues. Alors à qui a profité l'accord sur le nucléaire iranien ? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Fatia Dazieni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez le monde arabe à Sciences Po Lille. Vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, spécialiste de l'Arabie Saoudite. Votre Arabie Saoudite en 100 questions sera publié le mois prochain aux éditions Talendier. Pour discuter avec vous, Bernard Bourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Votre géopolitique de l'Iran dans sa nouvelle édition, enfin en tout cas la dernière en date, c'est celle de 2016 et c'est aux éditions Armand Collin. Et puis troisième invité, Thierry Coville, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes économiste, vous aussi spécialiste de l'Iran, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Historique, le mot revient dans les communiqués des Nations Unies, de l'OTAN ou du Royaume-Uni après que l'Iran et le groupe 5 plus 1 ont conclu un accord sur le nucléaire iranien à Vienne ce matin. Une erreur historique, estime de son côté le gouvernement israélien. Téhéran s'engage à ne pas fabriquer de bombes nucléaires en l'échange de la levée des sanctions économiques contre l'Iran. Les inspecteurs de l'AIEA pourront vérifier à tout moment si ces engagements sont tenus. Si tout se passe bien, les sanctions seront levées début 2016 et alors le marché iranien s'ouvrira aux investisseurs étrangers. Mais déjà, Parissa, qui est PDG d'une société marketing à Téhéran, Parissa se réjouit de la nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle. Il va y avoir beaucoup plus d'ouverture, de concurrence. Il va y avoir un épanouissement économique, je pense. Pour les jeunes, c'est très important de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir avoir des projets aussi bien dans la vie courante que dans la vie économique. Il était temps, c'était quand même long, hein.
Alors voilà ce que l'on disait de cet accord sur le programme nucléaire iranien le 14 juillet 2015, c'est-à-dire au moment de sa signature. Là, c'était un papier, une explication de Frédéric Mettezeau sur France Inter. Donc, accord entré en application quelques mois plus tard, le 16 janvier 2016. Un an après, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors avant peut-être de mesurer les effets de cet accord, de son application, Thierry Coville, est-ce que les parties prenantes à cet accord respectent leurs engagements? À peu près.
Oui, ça a été d'ailleurs confirmé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Surtout la partie sur laquelle l'Occident avait le plus de doutes, c'était l'Iran. L'Iran a absolument tenu tous ses engagements concernant de limiter l'enrichissement de l'uranium à 3%, à limiter son stock d'uranium enrichi, je crois même le sortir d'Iran. Enfin, éliminer l'usine d'eau lourde de Darak, je crois. Donc tous les engagements que l'Iran a pris par rapport à cet accord ont été tenus de la part de l'Iran. Plutôt les questions du côté iranien, c'est plutôt, on y reviendra peut-être, la question des sanctions américaines qui, à leurs yeux, n'ont pas toutes été levées.
Voilà, parce que peut-être que de l'autre côté, voilà, on considère en tout cas chez les Iraniens qu'effectivement, il n'y a pas de totale réciprocité. Vous partagez en tout cas cette première analyse, Bernard Bourcade.
Oui, tout à fait, parce que côté américain, les sanctions sur le nucléaire ont été levées, mais il ne faut pas oublier que les Américains et les Iraniens sont en conflit depuis la prise en otage des diplomates américains en 1979, et que depuis 1979, il y a une série de sanctions accumulées contre l'Iran, qui ont été renouvelées, vous l'avez rappelé, à l'unanimité moins une voix du Congrès américain il y a quelques semaines. Autrement dit, les Iraniens disent, l'accord a été signé, on espérait que ce soit une ouverture générale, etc. Mais côté américain, ça bloque, l'argent n'est pas, à Guantanamo n'est back, et l'argent n'est pas encore retourné en Iran.
Oui, parce que les Américains, eux, disent, bah si, on a levé les sanctions qui avaient trait à la question du dossier nucléaire iranien, mais il y a encore la question du non-respect des droits de l'homme, du programme de missiles balistiques et le soutien au terrorisme des Iraniens au Moyen-Orient. Quand les Iraniens disent c'est une violation de l'accord nucléaire, à qui donner raison finalement, entre Américains et Iraniens, Bernard Hortel?
Formellement, les Iraniens ont tort, parce que l'accord était sur le nucléaire, et l'accord sur le nucléaire, il est bon, il a été fait, il est respecté des deux côtés. Mais la question est que les Iraniens espéraient que ce soit effectivement un accord global et politique. C'est-à-dire que ce soit enfin, après 35 ans d'ostracisme, on peut enfin serrer la main de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Et ça, c'était une révolution. Et les Iraniens pensaient que, dans la foulée, et Obama était pro-iranien en quelque sorte, et celui qui a été l'initiative de l'ouverture, que ça marcherait. Or, cet aspect politique ne marche pas, pour des raisons de politique intérieure américaine, à cause d'Israël aussi, il faut bien le dire, puisqu'Israël considère cet accord comme très négatif, et Trump, on en parlera, le considère également. Et donc, ce paramètre israélien fait que les Américains n'ont pas abandonné les sanctions qu'ils avaient prises avant, notamment concernant le Hezbollah.
Si je peux me permettre, je pense que c'est un peu compliqué. C'est vrai, mais les Iraniens n'ont pas tort. Je pense qu'ils ont raison sur le fait qu'il faut bien voir, c'est que dans l'accord de juillet, les sanctions concernant le secteur de l'énergie ont été levées par le président américain qui a dit nommément... Alors, il n'a peut-être pas écrit, mais c'est dans l'accord, les sanctions sur le secteur de l'énergie ont été levées. Et donc, l'idée, c'est qu'il existe des sanctions votées par le Congrès contre le secteur de l'énergie iranienne. Donc, l'idée, c'était que le président américain continue à faire jouer ce qu'on appelle son waiver, à les suspendre. Donc, si vous voulez... Oui, alors ça, Obama dit ça change rien, le vote du Congrès sur ces nouvelles sanctions sur le secteur pétrolier américain. Quelque part, c'est quand même, par rapport à l'esprit... de l'accord de juillet, c'est une atteinte totale parce que ces sanctions auraient dû être levées et le Congrès, à une écrasante majorité, dit on est une renouvelle. Quelque part, ils ne tiennent pas du tout compte de cet accord.
Donc on pourrait dire que sur la lettre, c'est peut-être les Américains qui n'ont pas tort, disons, mais sur l'esprit, on pourrait plutôt donner raison aux Iraniens. Fatia Bazieni.
Écoutez, moi, sur l'esprit Iran-États-Unis, moi, je partage complètement ce qui a été dit. Maintenant, moi, ma plus-value dans cette émission, c'est plutôt le côté monarchie du Golfe. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner de cet accord? En dehors d'une guerre qui aurait pu être désastreuse contre l'Iran, elles ont à gagner quand même diminution du chaos régional qui aurait pu être cataclysmique. Hein. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs... Turki El Faisal est l'un des premiers à avoir été rendre visite à Donald Trump pour lui demander de ne surtout pas détricoter l'accord sur le nucléaire.
Il faut rappeler qui est-ce.
Turki El Faisal, c'était un membre de la famille royale qui n'a pas de fonction officielle, mais qui est à la tête d'un think tank saoudien, la fondation El Faisal, et qui a été 25 ans quand même à la tête des services saoudiens, et qui était le frère de Saoud El Faisal, le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est une voix très importante.
Mais si les monarchies du Golfe, finalement, a priori, avaient tout à gagner à ce que l'Iran ne développe pas un programme nucléaire qui soit programme nucléaire militaire, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elles aient été à ce point réticentes justement par rapport à cet accord, et est-ce que elles ont œuvré peut-être pour que justement les Américains n'aillent pas tout à fait au bout de l'esprit de ce qui s'est signé en juillet 2015?
Ce qui a surtout paniqué les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite en tête, c'est la politique de la main tendue d'Obama vers l'Iran. C'est-à-dire que, clairement, pour eux, cet accord, c'était une trahison de l'Amérique vis-à-vis de son allié stratégique depuis 70 ans, l'Arabie Saoudite. Ils se sont sentis abandonnés, comme l'Amérique avait abandonné Moubarak, un allié de 30 ans. Donc, c'est surtout là-dessus que les Saoudiens réagissent. Les Saoudiens, c'est pas tellement l'accord sur le nucléaire ou même l'arme nucléaire détenue à terme par l'Iran, qui les menace, même si, évidemment, c'est une menace, parce que ça voudrait dire que l'Iran, c'est la puissance définitive régionale et la plus puissante pour longtemps. Ce qui gêne surtout les Saoudiens, c'est l'interventionnisme iranien au Moyen-Orient. Hein. Depuis 2003, la chute de Saddam Hussein, il est clair que l'Iran n'a cessé d'accroître son influence, et c'est ça qui panique les Saoudiens. Alors évidemment, avec cet accord, l'Iran revient en force dans la communauté internationale, et c'est l'affaiblissement stratégique de l'Arabie Saoudite.
Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que cet accord a produit un Iran potentiellement moins dangereux, mais plus influent, Bernard Ourcade.
Oui, ce qui est important, c'est que l'Iran, l'affaire sur le nucléaire est un peu un prétexte. C'est un prétexte énorme, évidemment, il y avait de vraies raisons.
Un prétexte pour qui ?
Pour contrôler l'Iran et pour faire tomber le régime islamique en Iran. Et on s'est rendu compte, et Obama s'est rendu compte, que ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il a dit, les Iraniens sont une nation importante, il y a 4 millions d'habitants qui sont là, on ne peut pas maintenir 4 millions d'habitants en dehors du système pendant des années, donc il faut trouver une issue. Et Rouhani est là, j'essaye de trouver une issue. Donc il se retire du Moyen-Orient, parce que sa stratégie aussi est de partir de la Chine et de laisser tomber un petit peu le Moyen-Orient, d'être moins actif, disons, proactif au Moyen-Orient. Autrement dit, les Américains se retirent. Mais pour les Iraniens, ce qui était important, c'est de pouvoir retrouver leur force naturelle, en quelque sorte. Alors pour l'Arabie Saoudite, pour les monarchies du Golfe, qui sont démographiquement de petits pays par rapport à l'Iran, qui ont une profondeur historique différente. Enfin, tout est différent entre les deux ensembles. Et ce sont deux nouveaux pays qui sont face à face. Mmh. Il y a 40 ans, l'Iran, République islamique, n'existait pas. C'est l'Iran du Shah, pro-américain. Et en face, il y avait un allié, les pays arabes. Mais Dubaï n'existait pas il y a 40 ans. Et aujourd'hui, regardez ce qu'est Dubaï, c'est la capitale de la région. Pour les Iraniens, c'est une honte. Donc maintenant, on a une capacité de rééquilibrage. Mais comment rééquilibrer ? Après 35 ans de rupture, qu'est-ce qui va se passer ? L'Arabie Saoudite n'est pas contre le retour de l'Iran, mais dans quelles conditions ? Si c'est pour donner tout à l'Iran parce que les Iraniens ont beaucoup perdu pendant 30 ans, moi, Saoudien, je n'accepte pas. Et donc, toute la question, c'est la mise en œuvre de ces 35 ans de congélation de l'Iran, dont l'Iran est effectivement beaucoup plus fort parce que les dynamiques internes de l'Iran, nationalistes, islamiques, chiites, internationales, scientifiques, démographiques, culturelles, tout ce que vous voudrez, va se développer. Certains disent, regardez, c'est l'impérialisme iranien. Les Iraniens disent, non, c'est simplement l'éclosion de l'Iran normal dans le cadre de nos frontières. Et la grande question, c'est est-ce que l'Iran est aujourd'hui nationaliste ou impérialiste ?
Fatia Daziani, quel est le droit de regard que peuvent exercer aujourd'hui les Saoudiens sur ce retour et cette normalisation de l'Iran dans la région ? Il n'y a pas de droit de regard, par exemple, sur l'application de l'accord. Ils ne sont pas du tout impliqués dans cet accord.
Non, ça a été justement...
Mais est-ce qu'ils le sont indirectement, en tout cas ?
Ça a été une des revendications des pays du Conseil de coopération du Golfe, hein, qui réunit les 6 monarchies arabes de la péninsule arabique, et qui demandait à ce qu'il ait un peu un strapontin dans ces négociations. Alors, les pays de l'Union européenne qui siégeaient dans cette négociation et les États-Unis briefaient évidemment à leur manière les Saoudiens et les pays du CCG. Mais ils n'ont absolument pas fait partie de cette négociation et ça les a énormément frustrés. Parce qu'ils disent on est directement concernés, on est totalement exclus de ces négociations. Et comme le disait très bien Bernard, c'est vrai que c'est pas tant le retour de l'Iran, parce que les Saoudiens et les petites monarchies du Golfe, c'est leurs voisins. Physiquement, ils font avec l'Iran depuis toujours et ils doivent continuer avec l'Iran.
Alors, pas représenté directement, même si on pourrait considérer qu'à travers la diplomatie française et celui qui l'a porté à l'époque de la signature de l'accord, à savoir Laurent Fabius, ils étaient peut-être représentés indirectement. Thierry Coville, est-ce que aujourd'hui cet accord, donc, qui est entré en vigueur il y a un an, je vois que certains ici hochent un peu la tête, enfin bon, voilà, en tout cas, on va dire que la diplomatie française a été assez, stricte. Assez ferme dans les négociations. Est-ce que cet accord aujourd'hui, Thierry Coville, il vous paraît être mis en danger, alors à la fois par le renouvellement des sanctions, mais aussi par ce qui se trame d'ici quelques jours aux États-Unis? C'est d'ailleurs une question que je vous adresse à tous les trois. Et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui, alors, il a promis beaucoup de choses dans sa campagne, on ne sait pas ce qu'il va tenir ou pas. Enfin, une de ses promesses, c'est de déchirer l'accord de juillet 2015.
Oui, alors c'est vrai que sur ce qui concerne les sanctions, il y a effectivement ces sanctions américaines votées récemment par le Congrès concernant le secteur pétrolier iranien. Il y a un autre quelque chose qui ennuie beaucoup les Iraniens plus que ça, c'est les sanctions financières. C'est-à-dire que il n'y a aucune grande banque européenne qui a recommencé à travailler avec l'Iran. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est là aussi on voit une certaine hypocrisie de la part des Américains qui disent « Écoutez, nous, on a levé toutes les sanctions, allez-y. » Mais les grandes banques européennes, elles se rappellent quand même qu'il y a quelques années, les représentants du département du Trésor américain sont venus les voir dans leur bureau à Paris ou à Londres et leur ont dit « Vous continuez à travailler avec l'Iran, vous n'aurez plus votre licence aux États-Unis. » Pour une grande banque mondialisée, etc., c'est pas possible. Ils se sont rappelés ce qui est arrivé à BNP Paribas. Donc ils font un calcul aujourd'hui, même si on leur dit « Tout va bien », quels sont les risques ? Une amende de 9 milliards de dollars quand même, et un marché qui s'ouvre, mais encore, il y a des incertitudes. Et puis, d'un autre côté, le risque est énorme. Donc, le profit et risque, ils pensent qu'ils vont pas y aller. Alors je pense que ça va se régler petit à petit. L'Iran est en train de faire des efforts pour respecter, par exemple, des réglementations. On lui reproche de pas être respecter les réglementations concernant la transparence, la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour récupérer les banques, les grandes banques européennes, qui, à mon avis, il y a du business, enfin, en gros, excusez-moi, mais il y a du business, il y a des affaires. Airbus, Total, Peugeot reviennent en Iran. À partir du moment où il y a de la demande, les grandes banques vont revenir. Par contre, la grande incertitude, alors là, j'avoue que j'ai pas plus de réponses que les autres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble que rationnellement, et d'ailleurs, le nouveau secrétaire d'État, il faudrait vérifier, mais je crois qu'hier, il a dit que maintenant, ils vont simplement revoir l'accord. Donc, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt, à tous les points de vue, du côté américain, de revenir sur cet accord.
Alors, c'est vrai que rationnellement, c'est compliqué de raisonner de cette manière aujourd'hui avec quelqu'un comme Donald Trump. Mais enfin, en tout cas, est-ce que vous seriez d'accord également, Bernard Ourcade et Fatia Daziani, pour dire, voilà, il n'y a pas d'intérêt à revoir l'accord. Il y a plus, en tout cas, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages pour les États-Unis à revenir sur cet accord.
Oui. Un certain nombre de gens qui ont négocié l'accord sur le nucléaire, quand la France était particulièrement ferme et qu'Israël était très inquiet, on dit, écoutez, vous trouvez notre meilleur accord possible, on réussit à bloquer le programme nucléaire iranien, c'est un accord, ce n'est pas la totalité, ce n'est pas le paradis. Mais pour l'instant, on est tranquille pendant 25 ou 30 ans. Donc on peut faire quelque chose. Donc l'accord n'est pas parfait, donc le déchirer est difficile. Et l'accord était signé par 6 partenaires. Si Trump déchirait l'accord, en quelque sorte, il faudrait en discuter avec Poutine, avec les Chinois, avec les Européens. Et je crois que l'Iran pourra être, dans les années à venir, avec l'Arabie Saoudite, justement, comment régler ces deux grands pays qui sont maintenant émergents, face à face. Cette question-là va être au centre, avec de l'Europe et des États-Unis. Les Européens investissent massivement en Iran, essaient d'y revenir. La France est très active aujourd'hui en Arabie Saoudite, par exemple, et dans les monarchies du Golfe. Autrement dit, d'ailleurs, d'après ce que j'en crois savoir, les monarchies n'ont rien contre le fait que Peugeot ou Renault aillent en Iran, c'est pas leur problème du tout, au contraire. Bon. Autrement dit, il y a un rééquilibrage, mais on risque d'avoir une politique américaine opposée à celle des Européens. Et donc, on a un Trump qui dit les questions de droits de l'homme, ça m'intéresse pas, c'est pas un problème. Les Européens, ça les concerne. Or, ne pas oublier que l'accord sur le nucléaire était fait par les Européens. Le dialogue critique depuis les années 1988 avec l'Iran, c'était les Européens. Donc, il y a une tradition politique des Européens, mais y compris des Russes qui sont pragmatistes et des Chinois qui arrivent sur le marché maintenant par rapport à l'idéologie américaine en quelque sorte. Autrement dit, Trump n'a pas intérêt à faire la guerre sur tous les fronts et on peut penser qu'effectivement, sur la question iranienne, donc saoudienne, il y a possibilité d'être rationnel quand on s'appelle Trump aussi.
Fatia Daziani.
Alors sur l'accord, oui, tout ce que vient de dire Bernard, je le partage. En revanche, il ne faut pas oublier que Trump a plusieurs fois mis l'accent, plus que sur l'accord, sur l'interventionnisme iranien dans la région. Et là-dessus, ils sont en accord total avec toutes les monarchies du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite. Oman, un petit peu, c'est un peu particulier parce qu'ils ont des relations très étroites avec l'Iran. Mais si Trump et son équipe, très hostile au régime iranien, met l'accent effectivement sur cet entrisme iranien en Irak, en Syrie, au Liban, voire au Yémen, effectivement, les dangers d'une perturbation régionale sont là parce que les Saoudiens, les Israéliens et toutes les monarchies du Golfe adhèrent à ce registre-là. Alors que quand on met l'accent sur le détricotage de l'accord, là, Trump sera en très grande difficulté.
Oui, il faut se rappeler aussi qu'il a dit quand même que le principal ennemi des États-Unis dans la région, c'est l'État islamique.
Oui.
Et tout le monde sait que le seul État qui lutte effectivement avec son armée et qui a des pertes contre l'État islamique, c'est l'Iran.
Donc il y a un ennemi commun.
C'est pas le seul État, faut pas exagérer.
Non, mais je veux dire,
sur le terrain.
Je dis pas que. Mais je veux dire qu'il y a des pertes, etc. Donc, non, mais je veux dire par là qu'il y a aussi une convergence entre ce que Trump a dit, notamment sur la Syrie, et la position iranienne. D'ailleurs, il était assez content qu'il ait pris ses positions sur la Syrie en Iran.
C'est un débat que j'ai eu avec Fatia Daziani à plusieurs reprises sur justement le nationalisme ou l'impérialisme iranien. Mm-hmm. Quand les Iraniens arrivent dans le Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils constatent aujourd'hui? Que Mossoul ou Raqqa, c'est pas eux. Daesh, c'est pas eux. C'est plutôt dans la mouvance indirecte des monarchies pétrolières, directement ou indirectement. Et donc les Iraniens ils ont eu 8 ans de guerre avec l'Irak. Et donc pour eux, la guerre Irak-Iran est importante. Le GCC, le Conseil de coopération du Golfe, s'est fait contre l'Iran. Et donc aujourd'hui, ils tiennent absolument à ce que les régions périphériques de l'Afghanistan, le Golfe Persique, l'Irak ou la Syrie soient des zones où ils ont une certaine influence. Et donc les Iraniens disent, nous intervenons pour protéger notre frontière, pour protéger l'État iranien. C'est là qu'il y a une divergence, effectivement, même s'ils sont effectivement présents partout.
France Culture,
du grain à moudre.
Hervé Gardette.
À qui a profité l'accord sur le nucléaire iranien? C'est la question dont nous discutons ce soir en compagnie de Bernard Ourcade, de Fatia Dazieni et de Thierry Coville. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant tout de même à l'impact que ça a pu avoir pour les Iraniens, pour la population iranienne. Thierry Coville, c'est vrai qu'au moment de la signature de l'accord, on l'entendait dans le petit son qu'on a passé au tout début, il y avait énormément d'espoir, de relance de la consommation avec des entreprises étrangères qui allaient investir, qui allaient sans doute faire diminuer le chômage. On a retrouvé une étude d'un cabinet Euler Hermès, sur l'impact attendu de l'accord, et notamment qui disait ceci: l'Iran pourrait voir sa croissance atteindre 4% en 2016, 4,2% en 2017, du fait de l'impact de la levée des sanctions internationales. Un an après l'entrée en application de cet accord, est-ce qu'on peut dire que les Iraniens vivent mieux?
Alors, il n'y a pas qu'en Iran que l'environnement macroéconomique, je donne une réponse en tant qu'économiste, est meilleur. La croissance, effectivement, tout le monde est d'accord, elle a fait peut-être faire 5-6% cette année en 2016. L'inflation en Iran, avant, elle a quand même atteint 40% à cause des sanctions. Là, elle est revenue à 8-9%. Le taux de change du rial contre le dollar, même s'il y a des petites faiblesses à cause des incertitudes américaines, il est globalement stabilisé. Donc, si vous voulez, si j'avais un diagnostic à faire, l'environnement de l'économie iranienne est meilleur. Le problème, c'est la perception dans la vie quotidienne des gens. Il n'y a pas qu'en Iran qu'on dit aux gens ça va mieux et qu'ils n'ont pas l'impression que... Parce que, si vous voulez, il y a un taux de chômage élevé en Iran. C'est pas avec une croissance d'une année de 4-5% qui vont créer... si vous voulez, il y a presque un taux de chômage de 16%, peut-être beaucoup de jeunes diplômés. Donc, il faudrait que Rouhani... C'est pour ça qu'il y a un enjeu énorme avec la réélection... Enfin, les nouvelles élections présidentielles. Rouhani, il faut que l'Iran ait, on va dire, 5, 6, 7 ans de croissance forte pour... effectivement, diminuer le chômage. Un autre enjeu qui va prendre du temps, c'est que pour que Rouhani réussisse ses réformes d'ouverture, de diminuer la dépendance pétrolière, il faut qu'il attire l'investissement étranger. Et comme ça vient d'être dit, l'Iran est quand même un pays qui a été relativement fermé économiquement, avec pas mal de problèmes. Il n'y en a pas plus que d'autres, mais il y a des problèmes. Il y a une bureaucratie, il y a de la corruption, il y a l'incertitude avec les sanctions américaines, la politique américaine, etc. Donc, ça va prendre également du temps pour que l'investissement étranger, même s'il y a des réussites, hein, comme Peugeot, comme Total, comme Faurecia, comme il y a des
comme Airbus, hein, comme Airbus dans le journal, voilà, là, on racontait le fait qu'il y avait un premier appareil qui arrivait à l'aéroport Mehrabad de Téhéran cet après-midi. Voilà. Premier appareil sur une commande de 100.
Et ce qui complique en plus tout ça, c'est qu'il y a un tir de barrage d'une violence incroyable qu'on n'a peut-être pas dit en France, des opposants à l'accord contre Rouhani qui font tout pour noircir le tableau. Donc vous mettez tout ça ensemble, c'est vrai que les Iraniens, donc Rouhani vient de le dire, l'environnement économique s'est amélioré, la perception dans la population n'est peut-être pas forcément la même.
Bernard Ourcade, oui. Il va y avoir donc une présidentielle en Iran au mois de mai prochain. Est-ce que l'accord sur le nucléaire et surtout son application et l'impact qu'il a pu avoir ou pas sur la vie économique et sociale en Iran, ça va être un des enjeux de cette présidentielle?
Absolument. Quand l'accord est fait, c'était un triomphe, comme quand les Iraniens ont gagné sur les Américains la Coupe du Monde de foot en 98.
Il y a une manifestation à Téhéran.
Exactement.
Une manifestation de joie.
Donc ça y est, la Californie arrive à Téhéran, c'est une question de jours. Or, l'Iran doit être restructuré complètement. Thierry Coville le disait, il faut restructurer les banques, la façon de faire. Ils n'ont jamais vu de compagnie internationale depuis des années. La coopération n'existe pas. En Iran, il y avait il y a un an, pas plus de 3000 occidentaux expatriés. 3000, zéro. Autrement dit, l'Iran doit s'adapter à la mondialisation. L'Iran était en dehors de la mondialisation. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, les contextes macroéconomiques, tout cela, c'est mieux. Il y a des problèmes, mais ça peut s'améliorer. Mais avant que une usine, vous avez signé un accord entre Rouhani et Hollande il y a un an, entre un accord général signé d'une présidence et le premier ouvrier qui va travailler, il faut 3 ans au moins ou 4 ans. Et donc, les embauches vont se faire en 3 ou 4 ans, le temps que l'accord se fasse, que l'usine soit faite, que la machine marche. Et donc, les Iraniens, eux, ils vivent tous les jours. Et donc là, on peut avoir en Iran, vu le contexte difficile de Trump en particulier, des gens qui disent « Regardez votre accord. Votre accord, c'est se coucher devant les États-Unis, hein, qui est le grand Satan, et finalement, on a perdu notre indépendance, l'agression culturelle des étrangers qui débarquent en Iran, et regardez les résultats, le chômage est aussi important qu'avant. » Donc il y a un enjeu politique très important entre les réformateurs, les réalistes et les conservateurs en Iran.
Et c'est une impatience qui pourrait justement profiter aux conservateurs, ou bien est-ce que les conservateurs ne trouvent pas aussi leur compte dans cette ouverture au moins économique de l'Iran. Enfin, on sait que une partie des affaires en Iran, elle est pilotée de manière plus ou moins directe par le guide suprême Ali Khamenei et pas par son entourage. Oui. Donc ils en profitent aussi finalement de cette ouverture.
Ils savent très bien qu'ils n'auraient pas eu le choix. Si le guide a accepté la signature de l'accord, il n'était pas forcément d'accord avec le principe, mais il savait qu'il n'a pas le choix. En 2009, les événements politiques de contestation de la République islamique ont été très forts. Et donc, tout le monde a compris, à la plus haut niveau du régime islamique en Iran, qu'il fallait avancer, qu'il fallait ouvrir. Et que, par ailleurs, les gardiens de la révolution, les apparatchiks qui contrôlent le système, ils étaient millionnaires.
Il y a possibilité maintenant d'être milliardaire, c'est ça?
D'être milliardaire, exactement. Hein, de rentrer dans le système et de ne pas faire du petit business. Mais ce qui est important, surtout, je crois, c'est qu'il y a un rouleau compresseur d'optimisme en Iran. Il y a une société civile qui vient de s'exprimer maintenant avec les obsèques de Rafsanjani, qui était un des parrains, en quelque sorte, des réformateurs ou des gens, des modérés, des pragmatistes, pas des réformateurs, des pragmatistes, qui montrent qu'en Iran, fondamentalement, même les anciens islamistes disent il faut y aller. Et l'Iran est assez fort pour être capable de serrer la main au roi Saoud et à Kerry à la fois, et à Trump à la fois.
Fatia Daziani, est-ce que ce n'est pas ce rouleau compresseur de la société civile qui peut aussi inquiéter les monarchies du Golfe, c'est-à-dire de voir aussi une société qui reprend un peu son autonomie, son indépendance et qui a davantage de liberté?
Vous parlez de la société iranienne?
La société iranienne, oui. Mais de voir ce mouvement-là, justement, qui n'existe peut-être pas tout à fait de la même manière, c'est par exemple en Arabie Saoudite.
Ça ne les inquiète pas, non. Au contraire, la société qui... Enfin, les quelques Saoudiens que je connais et qui fréquentent des Iraniens sont plutôt séduits par la société iranienne. Ce qui les inquiète beaucoup, c'est le régime. Hein. Maintenant, voir que ils savent très bien que l'Iran est peuplé de 80 millions d'habitants, que c'est une société très sophistiquée, très éduquée, ils peuvent bénéficier aussi de ces échanges. Donc, c'est pas ça qui fait peur. Et puis, dans l'immédiat, c'est vrai que les monarchies du Golfe ne souffrent pas, pour le moment encore, des conséquences de cet accord et du retour de l'Iran. Mais à terme, c'est vrai que le grand perdant, ce sera l'Arabie Saoudite, parce que ils sont déjà très... Si vous voulez, la compétition va devenir économique. Et là, il n'y a pas photo. Hein. Vous avez une énorme puissance iranienne. Mais bon, oui. Aujourd'hui...
C'est idéologique aussi. Est-ce que les oulémas saoudiens n'ont pas peur, justement, de la société iranienne?
Oui, mais enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une monarchie saoudienne qui prend un envol très différent sous le roi Salman, hein, qui est très vertical et qui, aujourd'hui, la monarchie al-Saoud, c'est trois personnes. C'est le roi, le ministre de l'Intérieur et prince héritier, et surtout le jeune fils qui a, Mohamed bin Salman, qui a le projet Vision 2030 et qui ne parle que business. Donc, de ce point de vue-là, honnêtement, aujourd'hui, moi, ce que je montre dans le livre qui va paraître le mois prochain, c'est que le pouvoir religieux, ça paraît sidérant ce que je vais dire, hein, mais a perdu énormément de contrôle au bénéfice du ministère de l'Intérieur et du trio au pouvoir.
Donc la compétition à venir, pour vous, elle sera davantage économique que
diplomatique. C'est là où les Saoudiens, effectivement, sont inquiets.
Thierry Coville.
Oui, enfin, je pense qu'il faut peut-être sortir du schéma l'Iran. Alors la compétition va devenir économique, et il va y avoir un gagnant, l'Iran, et des perdants. C'est compliqué. La croissance économique, ça passe par des échanges, ça passe par l'ouverture économique, dont a priori, par exemple, les marchés régionaux de l'Iran maintenant, c'est la région. Ils sont du fait des sanctions. D'ailleurs, ils peuvent remercier quelque part les sanctions. Ils se sont rendus compte que leur principal marché, c'est pas les États-Unis ou le Japon. Hein, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, c'est éventuellement les marchés du Golfe Persique. Donc c'est la région, quoi. La Turquie est en train de fortement développer et largement devant la France maintenant en tant que partenaire de l'Iran. Donc, je pense que ce serait une très bonne chose si les pays pouvaient développer leurs échanges non pétroliers entre eux. Et je pense qu'un marché régional plus dynamique, avec plus d'échanges, ce serait une très bonne chose pour l'Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'il y a un discours qui consiste à dire « maintenant, l'Iran va gagner sur le plan économique, les autres vont être perdants ». Non, je pense que si l'Iran se développe, c'est bon pour l'Arabie Saoudite, c'est bon pour l'Irak, c'est bon pour la région. Et d'ailleurs, derrière, on va pas revenir là-dessus, mais derrière l'accord sur le nucléaire, je pense quelque part, il y a aussi un calcul fait par tous les dirigeants iraniens, dont le guide, quelque part, c'est que on arrête un petit peu avec, pour simplifier, l'exportation de la révolution. Maintenant, effectivement, la compétition, c'est économique, mais l'Iran a tout intérêt à jouer le jeu de l'économie et à devenir, si elle veut devenir une puissance influente, ça passe par le développement de son économie. Mais je pense que tous les pays de la région seront gagnants. Il n'y aura pas des gagnants et des perdants.
Oui, mais quand même, il y a une compétition dans le sens où l'Arabie saoudite a beaucoup bénéficié des échanges avec la Chine, l'Inde, etc. Donc ils vont
entre la France et l'Allemagne, il y a une compétition aussi. Je veux dire, pourquoi ne pas appliquer
On était dans des relations plus classiques.
Oui, mais bon, les relations entre l'Allemagne et la France ne sont pas celles de l'Arabie saoudite et de l'Iran quand même. Il y a un contexte régional qui est dur.
On est passé par tous les stades.
Il y a un contexte qui est dur et je ne vois pas la désescalade régionale quand même. C'est une vraie guerre géopolitique sectaire. C'est ça le problème.
La question est de l'héritage. On voit très bien qu'aujourd'hui, le logiciel est différent. L'accord sur le nucléaire montre que le soutien à 100% pour les monarchies pétrolières qui montaient contre la menace iranienne, tout ce schéma-là, il est passé. L'exploitation de la révolution est terminée. On est face à de nouvelles réalités. Donc il y a un nouveau logiciel, c'est ça qui est intéressant. Et ce logiciel, on ne le connaît pas encore parfaitement, mais il y a des héritages. La guerre de Syrie, qui est le drame le pire du Moyen-Orient depuis dans son histoire du XXe siècle, la guerre de Syrie, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé avant. C'est parti bien avant l'accord sur le nucléaire, à une époque où la tension était très forte et où on utilisait tous les moyens pour attaquer l'autre. Et donc il y a ça sur le dos des Syriens, avec 300-400 000 morts. Mais tout le monde est d'accord maintenant, y compris côté iranien, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été obligés d'envoyer des soldats, ils n'ont pas tellement envie de ça, de faire le Hezbollah qui doit agir, donc ce ne sont pas des Iraniens. Et à montrer que l'Iran n'est pas aussi fort que ça. L'Iran n'est pas le maître du jeu complètement. Il instrumentalise, mais pas complètement. Ça leur coûte cher en argent. Ça donne une mauvaise image de l'Iran. L'Iran a besoin de ne pas être, comme disait Fatia Daziani, avec cette image d'exportation de la révolution qui intervient partout dans le monde. Il faut arrêter cela pour que les capitaux reviennent et que ça se stabilise. Donc toute la question est justement d'arrêter le feu syrien, qui est la principale question, plus que Trump, etc. D'arrêter l'incendie syrien et de faire, comme disait Thierry Coville à l'instant, que les relations interrégionales existent. Avant, il y avait l'impérialisme. Tu étais pro-Moscou, pro-Washington. Tout était bloqué. Et maintenant, c'était bloqué encore, de chaque côté du Golfe Persique. Or, de trouver une coopération autour du Golfe Persique, je parlerai de ça, la Pax Petrolea, la paix pétrolière, tous ont intérêt à ce que le pétrole et le gaz sortent tranquillement, sans histoire. Oui. Iraniens, Koweïtiens, Qataris, Saoudiens. Autrement dit, là, il y a autour des enjeux économiques et des sociétés qui ont besoin de se développer en Arabie Saoudite, en Iran, en Irak ou ailleurs, un enjeu de stabilisation qui passe par là.
Oui, mais pour effectivement... ça, Bernard, il faut que l'Iran change sa politique régionale.
Régionale et
en
l'Arabie
Syrie,
saoudite.
En Irak aussi.
Et que le Qatar cesse de subventionner des organisations terroristes, etc. etc., etc.
Oui. Je ne vais pas jouer l'arbitre, mais je pense qu'il y a un degré de... Il y a un problème de perception, donc il faudrait peut-être aussi sortir du schéma... Il y a une telle méfiance des deux côtés que je pense que c'est difficile de dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a complètement tort. Ce serait le rôle de l'Europe, on parlait de la diplomatie française. Bon, pendant des années, on allait vendre des armements en Arabie Saoudite en disant « Attention, vous avez un voisin, les Émirats, un voisin très très méchant ». Bon, je pense qu'il faudrait aussi que le logiciel de notre diplomatie, il change de ce côté-là.
Est où justement ce logiciel aujourd'hui? Est-ce qu'on est aussi en phase de rééquilibrage a priori, ou bien est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même toujours une diplomatie extrêmement saoudienne et très peu iranienne? Alors, je ne sais pas qui veut répondre derrière le cadre.
Excusez-moi, mais Obama est celui qui a vendu le plus d'armements aux Saoudiens en deux mandats. 115 milliards de dollars d'armement.
Y compris pour Israël.
Ça l'a empêché de
exactement,
faire l'accord.
Exactement.
Mais ça, c'est l'héritage, en quelque sorte. D'un côté, il tendait la main à l'Iran pour qu'il en revienne. Et de l'autre côté, sur le nucléaire, on rassurait, etc. Le point important, il faut rassurer. Les questions psychologiques, idéologiques sont tellement lourdes. Les guerres sont là. Oui. L'action de l'Iran. Pour un Saoudien, pour un sunnite classique, un arabe, voir des Iraniens débarquer à Damas, c'est pas normal. Bon, et on les comprend tout à fait bien. Donc, il faut retrouver une certaine rationalité. Et c'est là qu'effectivement, que l'Europe un jeu à jouer, mais aussi la Chine ou la Russie, je dirais. Oui. Quand les Européens ont essayé de négocier l'accord sur le nucléaire en 2003, c'était De Villepin, Stroh et Fischer. Ils débarquent à Téhéran, font un accord extraordinaire, signé en 6 heures. Les Américains n'étaient pas dans le coup, les Saoudiens non plus, les Turcs non plus, les Russes non plus, les Chinois non plus. Résultat, ça n'a pas duré. Et donc, ils ont mis à bord tout le monde, les 6. Malheureusement, les Turcs, les Égyptiens, les Saoudiens n'étaient pas là, mais tout le monde était dans la barque. Et on se rend compte que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans cette région-là dépasse largement cette région. Et donc, c'est le devoir, je crois, historique des Européens, ils ont montré qu'ils pouvaient le faire, de jouer les go-between pour essayer, puisqu'il y a le monstre américain, le monstre russe, le monstre chinois, les Européens ont une carte à jouer de ce point de vue-là.
Et un élément très important à intégrer dans la diplomatie française, c'est, à mon avis, le point central, c'est la société civile iranienne. Oui. C'est très bien de vendre des Airbus et c'est très bien de vendre l'armement militaire, etc. Mais je veux dire, si il y a une chance et il y a une opportunité de stabilité dans la région, c'est parce que plus cette société civile iranienne pourra prendre avoir un rapport de force politique, prendre du pouvoir politique, économique et politique et pouvoir échanger avec le reste de la région, c'est excellent pour la région parce qu'en termes de tolérance religieuse, égalité hommes-femmes, tout ça, en Iran, il s'est passé beaucoup de choses et plus cette société civile aura de l'influence dans la région, c'est bon. Et ça, je pense que ça devrait être la priorité, la priorité des priorités des diplomaties. En France et en Europe.
Et justement, est-ce que du côté des signataires, en tout cas des signataires européens de cet accord sur le nucléaire iranien, vous sentez aussi cette volonté de favoriser, d'aider cette société civile peut-être à s'émanciper, ou bien est-ce qu'on en reste avant tout à l'idée que c'est un excellent accord pour le commerce européen?
C'est des vieilles habitudes. On dit que voilà, c'est très bien, on est très content, on est de nouveau... Quelquefois, j'ai un peu l'impression de, j'espère que je me trompe, mais qu'on replaque sur l'Iran, ce qu'on replaquait éventuellement sur l'Arabie Saoudite, on est amis, on voit même pas, il faut pas dire non plus, ils vont pas avoir d'attendre les traités d'amitié avec l'Iran, on va oublier tout ce qui va mal en Iran, je veux dire, faut traiter l'Iran comme, d'ailleurs, ce qu'elle est, une société adulte et mature. Donc, j'espère, effectivement, ça va changer, mais quelquefois, je pense que les vieilles habitudes sont dures à faire disparaître. Mais je pense que, il y a quand même il y a beaucoup de choses qui se passent. Plus il y aura d'échanges culturels avec l'Iran, il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience peut-être plus aux États-Unis que quelquefois en France.
Non, mais c'est vrai que la grande force de l'Iran, c'est sa société civile, contrairement à l'Arabie Saoudite.
Oui, mais elle est diverse aussi. Attention, en Iran, le Shah n'a pas vu que les questions islamiques étaient importantes. Il est tombé à cause de ça. Les forces traditionnelles islamiques, ça existe en Iran.
Personne n'a dit le contraire.
Non, oui, mais je veux dire par là qu'on ne peut pas violer une société. Et donc, aujourd'hui, actuellement, en Iran, l'activité économique fait qu'il y aura des étrangers qui vont venir en nombre, en dizaines de milliers, en centaines de milliers. C'est un changement important. Et c'est par, je crois, l'économie que les choses vont changer parce que les Iraniens vont rencontrer des gens de l'extérieur.
Et donc, c'est le vieux débat. Est-ce qu'il faut que ce soit l'économie qui précède le politique ou
l'inverse? C'est un cheval de Troie.
En Arabie Saoudite, c'est vrai que les changements sont en train d'arriver par l'économie. Et l'émancipation de la femme se fait par l'économique. Et les barbus religieux sont obligés de se taire.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est ça le défaut des Français, quelquefois, qui avancent avec la laïcité, avec les questions sur la religion, en disant sunnite, chiite, etc. Ce genre de questions existent, mais d'en faire le logiciel central, c'est une erreur d'analyse, c'est une erreur factuelle, une faute politique.
Est-ce que cette erreur d'analyse, en tout cas aujourd'hui, on n'est quand même pas en train de la rectifier, c'est quand même assez impressionnant. Alors moi, c'est la sixième saison que je présente cette émission. C'est pas la première fois qu'on parle de l'Iran. On a quand même vu le regard sur cette société iranienne se modifier quand même considérablement en France, Thierry Coville.
Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que de plus en plus, il y a des documentaires qui nous montrent une réalité iranienne. Les gens, on montre simplement la réalité iranienne, les gens sont déjà surpris. C'est la réalité de tous les jours. Donc, c'est pour ça que, je pense que là, on est largement sorti de vouloir imposer quoi que ce soit en Iran, si on n'a pas compris que l'Iran était un pays indépendant avec tout ce qui s'est passé depuis un moment. Donc, moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est de donner le plus d'ouverture possible à la société, de donner des visas, de donner visa aux étudiants, qu'il y ait des accords culturels, des accords de coopération, etc. Donc, c'est ça qui est très important.
Et c'est facile aujourd'hui d'aller en Iran?
Pour les touristes, oui.
Pour les chercheurs, ça reste.
Pour les chercheurs, c'est une question plus délicate.
Oui, ils s'ouvrent sur le tourisme. Quand même.
C'est plus délicat, c'est-à-dire parce que.
C'est-à-dire que ceux qui ont l'ont passé en Iran, comme votre serviteur ou d'autres, quelquefois. mais bon, ça va se passer bien. Il faut être optimiste. Il faut être naïf un petit peu, quelquefois.
Et pour vous, Thierry Coville?
Oui, je touche du bois. Moi, j'y suis allé deux fois l'année dernière. Mais c'est en tout cas, c'est un pays passionnant pour tout le monde. Tous les gens qui y vont, qu'on soit chercheur ou simple citoyen, je pense que c'est un pays absolument fantastique et passionnant à découvrir.
Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Bernard Orcade, Fatia Daziani et Thierry Coville. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est comme chaque jour sur notre site internet. franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, émission que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la podcaster, la commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son ce soir Jean Frédérics. Demain, ce sera le club des idées du Grain, le club du vendredi. Ce sera l'occasion pour nous de débriefer le premier débat de la primaire de gauche. Nous le ferons en compagnie de Brice Couturier, d'Anastasia Colosimo et de Sylvain Bourmeau, et également de Ludovic Pietenu, le chef du service politique de la rédaction de France Culture.